Chapitre 9. Kim McKinnon, la directrice de prison, était une superbe femme. Des pommettes hautes, joliment sculptées, une peau lisse couleur d'ébène, des yeux marron limpides. Le genre de créature qui serait aussi éblouissante à 70 ans qu'elle l'était à 40. Elle était également douée d'une intelligence incroyable, d'une détermination sans faille et d'un cran phénoménal, toute qualité indispensable pour diriger le plus vieux pénitencier pour femmes encore en activité aux États-Unis. Surtout à une époque où la surpopulation battait des records dans son établissement, qui venait d'être montré du doigt parce qu'il accueillait 250 détenus dans des locaux prévus pour 64. La théorie du ruissellement appliquée au système carcéral, m'avait expliqué la directrice le jour où je lui avais posé la question. Comme la plupart des prisons de comté étaient elles-mêmes pleines à craquer, elle n'avait plus la place d'offrir, ainsi que l'exigeait la loi, une séparation visuelle et phonique entre les délinquants des deux sexes. Leur solution ? Expédier les femmes au pénitencier, où elles devenaient le problème de la directrice. McKinnon récoltait la mauvaise presse. Les femmes se retrouvaient entassées dans des cellules à trois couchettes. Et malgré cela, l'État ne débloquait pas les fonds nécessaires aux travaux d'agrandissement. À part ça, la directrice avait un boulot de rêve, c'est sûr. Pour l'instant, Beyoncé, comme la surnommaient les détenus, était assise derrière son immense bureau gris métallique, les mains jointes devant elle, et elle me considérait d'un air grave. Son état empire, dit-elle sans préambule. L'incident de ce matin. Franchement, ça faisait des jours que je m'attendais à un épisode de ce genre. Donc, vous aviez ordonné des fouilles supplémentaires dans sa cellule et demandé à votre personnel de veiller particulièrement à ce qu'elle ne puisse pas se procurer de quoi fabriquer un couteau ? Traduisis-je en toute décontraction. La directrice se contenta de me lancer un regard. Voyons, Adeline. Vous arpentez ces couloirs depuis suffisamment longtemps pour savoir qu'avec une détenue comme votre sœur, il n'y a pas grand-chose à faire. Nous avons beau porter des uniformes, la plupart du temps, c'est quand même elle qui mène la danse. C'était la triste vérité. Ma sœur était le cauchemar de tout administrateur de prison. Une détenue en quartier de haute sécurité extrêmement intelligente, incroyablement asociale, et qui n'avait plus rien à perdre. Elle était déjà tenue à l'isolement. Enfermée 23 heures sur 24. À la seule exception de mon parloir, une heure par mois, elle se fichait de son droit à recevoir des visites. Idem pour son droit à téléphoner, à participer à des ateliers, ou même à conserver les rares objets de luxe qu'à force d'économie, elle était parvenue à s'acheter à la cantine de la prison. Shanna piquait encore et encore ses crises de sale gosse. Et encore, le personnel pénitentiaire répliquait en restreignant ses droits et en la privant de ses jouets. Shanna s'en fichait. Elle était en colère, déprimée, et jusqu'à présent, la bourrée de médicaments n'y avait rien fait. J'étais bien placée pour le savoir. C'était moi qui lui avais prescrit ses trois derniers traitements. La tentative de suicide de Shanna n'était pas seulement une pierre dans le jardin de la directrice, mais aussi dans le mien. « Elle prend ses pilules ?» demandai-je. La question s'imposait. « Nous surveillons qu'elle les avale. » Et nous fouillons sa cellule au cas où elle les régurgiterait. Nous n'avons rien trouvé. Mais ça veut peut-être seulement dire qu'elle a un coup d'avance. Adeline, vous comprenez bien que je vais devoir garder Shanna à l'infirmerie pendant une bonne semaine. Vous savez ce que c'est. Je hochai la tête. Reçu 5 sur 5. La prison ne manquait pas de cas psychiatriques. Mais l'infirmerie était un concentré de démence, où les plus déséquilibrés tournaient en rond dans leur cellule médicale en hurlant des insanités de leur crue à la face du monde. Si ma sœur n'avait pas déjà eu des envies de suicide, une semaine à l'infirmerie se serait chargée de lui en donner. « C'est l'anniversaire de son premier meurtre ?» demandai-je. Maria m'a dit qu'un journaliste avait cherché à joindre Shanna, posé tout un tas de questions. En guise de réponse, la directrice ouvrit brusquement un tiroir et en sortit une liasse de lettres entourée d'un élastique. « Charles Garzy !» Il a pris contact avec mes services il y a 6 mois. On lui a répondu qu'il fallait qu'il écrive directement à Shanna pour lui communiquer sa demande. On m'a dit qu'elle avait lu ses premières lettres, mais jamais répondu. Ensuite, il s'est acharné. Elle me tendit le paquet de lettres. j'en comptais plus d'une douzaine, classées par ordre chronologique en fonction de la date d'affranchissement. Depuis 3 mois, le journaliste écrivait au moins une fois par semaine. Les enveloppes avaient toutes été décachetées, mais avec les procédures de sécurité, cela ne voulait rien dire. C'est le même type qui a écrit tout ça ? Oui. Quel journal ? Pas un journal, un blog. Web journalisme ou je ne sais quoi. Paraît-il que le papier est dépassé. Que les futurs lauréats du Pulitzer se trouvent sur Internet. Malheureusement, c'est moins pratique pour emballer le poisson. Et Shana a lu toutes les lettres ? Seulement les premières. Depuis, elle les a toutes refusées. Mais vous les avez lues. Les agents du renseignement pénitentiaire étaient intrigués. Votre sœur ne fait pas partie de nos détenus les plus populaires, vous comprenez ? Je savais ce qu'elle voulait dire. Nombre de détenus mènent encore une vie sociale très active derrière les barreaux. Quand on est jeune et belle, la prison est un atout charme supplémentaire. Mais Shana avait la quarantaine bien sonnée, l'air endurci des prisonnières et la laideur du diable. La plupart des hommes la croyaient sans doute lesbienne. Étant donné la dimension sexuelle des meurtres qu'elle avait commis, je ne pensais pas que c'était le cas, mais je ne lui avais jamais posé la question. Quand elle a commencé à recevoir du courrier toutes les semaines, continua la directrice, nous avons soupçonné que ces lettres pourraient ne pas contenir que des propos mondains. Je hochai la tête. Si ma sœur n'était pas jolie, elle avait en revanche un passé de toxicomane et je comprenais l'inquiétude du renseignement pénitentiaire. Mais si ce sont des messages codés ou qu'il y a un contenu caché, dit la directrice en écartant les mains, c'est fait plus habilement que tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Mon hypothèse est que ce journaliste est obsédé par votre sœur. Ce qui, maintenant que je me suis renseignée sur lui, serait assez logique. C'est le cousin de Donnie Johnson. Je sursautai. Donnie Johnson avait 12 ans quand Shana l'avait étranglé à main nue avant de lui mutiler le haut du corps au couteau. Même si elle n'avait que 14 ans au moment des faits, elle avait été jugée comme une adulte, eu égard à la nature particulièrement odieuse du crime. Pendant le procès, elle avait prétendu que Donnie avait tenté de la violer, qu'elle n'avait fait que se défendre. Quant au fait qu'elle lui avait tranché une oreille, qu'elle l'avait défigurée, qu'elle avait retiré de longues lanières de peau de ses bras. Le remords, avait-elle expliqué d'un air impassible. Un cas classique de défiguration par repentir. Comme l'avait souligné le procureur, Donnie était un petit garçon pâle et chétif, de ceux qu'on choisit en dernier pendant les cours de sport. La probabilité que ce gamin frêle ait agressé sexuellement sa voisine plus grande, plus mûre, plus dégourdie. Il avait fallu moins de 2 jours au jury pour décider du sort de ma sœur. Et encore, c'était après que la défense avait empêché que soient pris en compte ses antécédents, notamment le coup de couteau qu'elle avait donné à 11 ans à un garçon de son foyer. Tous les grands médias de l'époque avaient présenté ma sœur comme un monstre. Étant donné qu'elle devait encore tuer 3 personnes, dont 2 surveillants, pendant son incarcération, je ne pense pas que ce jugement ait été erroné. Pour reprendre ses mots, elle était papa, un prédateur dans l'âme. Et moi, j'étais maman. Or, maman était pire. Ce fut plus fort que moi. Mes pensées se reportèrent sur des fioles en verre où flottaient des lambeaux de peau, planqués dans une boîte à chaussures sous le plancher de ma penderie. Qu'aurait pensé Shana si elle avait su que ma vie n'était pas aussi fade et irréprochable qu'elle le croyait? Que papa, elle et moi, avions finalement un point commun. Je me ressaisis et me reconcentrai sur les lettres. « Que veut-il ? » demandai-je. Lui poser des questions. Je brandis les enveloppes. Il l'a fait ? Non, il se contente de donner à chaque fois ses coordonnées pour qu'elle le contacte. Mais sans avouer qu'il est le cousin de la victime, vous avez découvert ça toute seule. Exact. Donc, déjà ses motivations sont suspectes. Je me méfierai, confirma la directrice. Vous croyez que Shana est au courant ? La directrice garda le silence un instant, me considéra d'un œil nouveau. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle soupçonne un lien entre la journaliste et Donnie Johnson ? D'après vous, ces lettres bouleversent Shana. Pourquoi ? Simplement parce qu'un journaliste lui demande de le contacter ? Vous la connaissez aussi bien que moi, elle s'ennuie. Elle est intelligente, très manipulatrice. J'aurais plutôt pensé qu'elle trouverait ce genre de sollicitation intrigante. Il vous arrive de lui parler de Donnie ? Nous effleurons parfois le sujet, mais sans doute moins souvent que d'autres, comme celui de notre famille. Elle n'a pas répondu à vos questions. Ça n'a jamais été son genre. Elle ne parle pas de lui, jamais. Après toutes les années qu'elle a passées ici, malgré tous les conseillers, psychologues et assistants sociaux qui ont défilé, Shanna ne parle pas de lui. Le garçon qu'elle a poignardé à 11 ans, j'en ai entendu parler. La putasse, selon ses termes, qu'elle a dû éventrer quand elle a été incarcérée à 16, j'en ai entendu parler, mais le petit Johnson, c'est tabou. Perplexe, je réfléchis. Shanna pouvait être très crue quand elle parlait de violence, de ses fantasmes, étriper telle personne, zigouiller telle autre. Rien n'était trop choquant, trop insoutenable, trop révoltant pour qu'elle le dise. Mais si on faisait la synthèse de ce qu'elle disait, si on l'analysait, en fait, elle jacassait. Elle vous servait exactement le genre de discours féroce qu'on attend d'une meurtrière multirécidiviste. Comme un bruit de fond qui couvre le reste de la conversation et vous empêche de continuer. J'étais certaine que si j'avais demandé à Shanna pourquoi elle avait tué Donnie Johnson, elle aurait haussé les épaules et répondu « parce que ». Elle se considérait comme une criminelle hors catégorie. Et les criminels hors catégorie ne s'excusent pas. Ils n'ont pas le sentiment d'en devoir autant à leurs victimes. Mais il aurait pu être intéressant de lui demander pourquoi elle ne parlait pas du petit Johnson, ou pourquoi elle n'avait pas répondu aux journalistes, ou peut-être et même surtout, pourquoi elle ne m'avait jamais parlé d'aucune de ses lettres. Au bout de 30 ans, qu'avait-elle encore à cacher ? « Je peux les emporter ?» demandai-je à la directrice. « Je vous en prie, vous allez appeler le journaliste ?» Ça se pourrait. Et vous allez parler à Shanna? Est-ce que je pourrais revenir demain? Vu les circonstances, oui. Je hochai la tête, pris la liasse de lettres, le cerveau déjà en ébullition. Mais au moment de me lever, je devinai, plus que je ne vis, l'hésitation de la directrice. Autre chose? Peut-être une dernière question. Est-ce que par hasard vous auriez lu le journal ce matin? Je fis signe que non. Entre mes activités nocturnes et le coup de fil de la prison, je n'avais pas eu le loisir de me tenir au courant de l'actualité. La directrice fit glisser le Boston Globe sur la surface lisse de son bureau en tapotant de l'index un titre en bas à droite, sous la pliure. Une femme venait d'être assassinée. Cela, je le compris immédiatement à la lecture du titre. Mais ce ne fut que lorsque mon regard balaya les paragraphes suivants pour prendre connaissance des détails du crime, de la présence de lambeaux de peau, détachés de la chair avec expertise. Je fermai les yeux et fus parcouru d'un frisson inattendu. Mais il ne pouvait pas. Je coupai brutalement court à cette idée. Ce n'était ni l'heure ni le lieu. « Si j'ai bonne mémoire, » commença la directrice. « Vous avez raison, » l'interrompis-je. « Si j'ai pu repérer des similitudes entre ce meurtre, les œuvres de votre sœur et les crimes de votre père, d'autres le feront. » « Exact. » « Donc la situation pourrait empirer, et pour elle, et pour vous. »« Oh que oui, » confirmai-je, les yeux toujours rivés sur le bureau pour ne pas croiser son regard. « La situation est en passe d'empirer sérieusement. »